m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Voilà. Ce générique est toujours admirablement surprenant. Bienvenue, chers auditeurs. Vous êtes nombreux à nous écouter. Vous pouvez nous entendre sur les ondes hertziennes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur X. Et donc, bienvenue dans Restons Courtois, où aujourd'hui, nous recevrons successivement Radu Portocalla et Romain Duguay, deux écrivains, avec lesquels nous observerons et nous discuterons du réalisme fantastique ou, pour le dire autrement, des mensonges communistes et de la réalité mythique. Pourquoi réunir ces deux écrivains dans une seule émission? Parce que l'un d'entre eux nous écrit la Roumanie de Ceausescu, et c'est quelque chose de si extraordinaire, même pour une dictature communiste, dans le délire, dans le mensonge et même dans la mythification, aussi bien au moment où Ceausescu est en train de bâtir cette espèce de réputation de dissidence qui est en fait est un mensonge, cette réputation de prospérité qui est évidemment un mensonge, cette réputation de liberté qui est évidemment un mensonge. Non, il est communiste, mais là, en plus, il est par ailleurs légèrement débile et particulièrement méchant. Donc, c'est le Père Ubu qui s'est installé à Bucarest, et c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Et le mythe de Ceausescu, c'est à la fois cette Roumanie qui a fini à la fin des années 80, mais aujourd'hui, c'est la manière dont certains Roumains s'imaginent qu'ils vivaient heureux, et je suppose que certains Soviétiques doivent regretter Staline. Et par ailleurs, Romain Duguay, donc lui, nous parlera de la Bretagne d'aujourd'hui, avec du beurre salé industriel et des bikers au lieu des bigouden, mais il nous parlera du roi Arthur et de la manière dont le roi Arthur vient réenchanter, ou en tout cas tenter de réenchanter cette Bretagne. Donc ce sont deux réalités, et en même temps ce sont deux mythes. Et ce sont des mythes en action, et c'est pour ça que Radu Portocalla sera suivi de Romain Duguay. Bonjour Radu Portocalla.
Bonjour Richard Seize.
Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, votre famille a vécu en Roumanie, et en Roumanie communiste, une partie d'ailleurs de votre famille.
Et moi aussi.
Et vous aussi, à sombrer dans les geôles communistes. Et vous nous aviez raconté, quand vous étiez passé, si je ne m'abuse, la dernière fois sur Radio Courtoisie, quelque chose qui est typique justement de la manière dont le mythe s'installe, et le mythe au sens le plus mensonger du terme. L'un de vos oncles n'existe littéralement plus, non seulement il est mort, mais en plus l'intégralité des preuves administratives de son existence ont été rayées.
C'est pas un oncle, c'est mon grand-père.
Ah, pardon.
Et en effet, il a été arrêté en 1950 dans ce qu'ils ont appelé le lot d'anciens dignitaires, détenu dans une prison qui était tenue secrète, qui était la seule prison dans l'énorme archipel pénitentiaire de Roumanie. C'était la seule qui avait un nom de code. Et... dont il n'y a aucune trace écrite, parce qu'il n'avait pas le droit de faire des archives, des communications. Mais ce qui est pire, c'est qu'il était avocat. Au moment de son arrestation, il était membre du barreau de Bucarest. Il a été rayé et son dossier d'avocat a été détruit. Donc, officiellement, il n'a jamais existé. Et en plus, tous ces gens, parce qu'ils étaient là pour mourir, c'était leur seul... le seul but de cette chose, au moment où il mourait, le directeur de la prison n'avait pas le droit de communiquer à Bucarest qu'un tel ou un tel était mort. Ils avaient une espèce de code qui était assez stupide. Ils téléphonaient à Bucarest, rien par écrit, ils téléphonaient à Bucarest et ils disaient « l'ampoule de la cellule telle s'est éteinte ». Donc le détenu était mort. Et il n'y avait pas de certificat de décès. En un moment donné, en 1957, il y a eu probablement des pressions de l'étranger, je ne sais pas, mais le ministère de l'Intérieur a décidé de faire des certificats de décès pour tous les gens qui sont morts dans les prisons et dans les camps à partir de 1946. Vous vous rendez compte ce que c'est? Donc, on a un certificat de décès pour mon grand-père qui dit qu'il est mort de myocardite chronique rhumatismale, alors que je sais très bien qu'il a été battu à mort, comme d'autres d'ailleurs. Et il donne une date qui est forcément fausse, parce qu'au moment où on n'a pas d'archives, au moment où on ne peut rien écrire, on ne peut pas imaginer qu'un directeur de prison, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, se rappelle exactement le jour où un tel a été tué ou est mort. Donc il n'existe plus, officiellement, il n'existe plus, il n'est pas du tout le seul dans ce cas.
Et ça, c'était la Roumanie avant Ceausescu, en tout cas avant qu'en 1965, Ceausescu accède à la fonction suprême.
Oui, oui, parce que en fait, il y a on a tellement parlé de Ceausescu dans les années 80 en Occident qu'on a occulté complètement la période qui l'a précédée et qui, en fait, est la vraie période criminelle. C'est là où on a ouvert un nombre incalculable de prisons et de camps de travaux forcés. Et c'est là où, par exemple, on a fait... Vous voyez, c'était programmatique. On a décidé, en 1948, d'ouvrir un canal entre le Danube et la mer Noire. C'était une idée plus ou moins soviétique qui... Parce que le Danube se verse dans la mer Noire par les trois bras du delta qui sont en Roumanie. Donc il n'y avait aucune raison de faire ce canal. Et on dit que l'Union soviétique voulait prendre le delta. Donc on a dit, bon, allez, vous allez faire le canal. Et quand le premier secrétaire du parti, en 1948, a annoncé l'ouverture de ce canal, il a dit clairement, ça sera la tombe de la bourgeoisie roumaine. Donc il y a un programme, n'est-ce pas, d'extermination qui a été assez suivi. Hein, parce que, oui. Même aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de morts il y a eu.
Voilà, on peut faire confiance aux communistes, pas vraiment pour réussir la planification industrielle ou agricole, mais pour ce qui est de massacrer les ennemis, ça marche bien. Et d'ailleurs, ça tombe bien, Ceausescu, dans ces années de l'après-guerre, dans les années 50, conduit lui-même quelques opérations de répression sanglante contre les paysans. Il ne s'occupe pas de la bourgeoisie, parce que c'est un peu un demeuré. Hein, son père le frappait souvent, il était un peu débile, il était bègue. Vous en dressez un portrait aimable. Et donc, c'est une espèce de brutasse qui a compris que son talent était de frapper les autres et d'être servile, et il le fait très bien.
Alors là, c'est un débat. On sait qu'il était malin. Est-ce qu'on peut être débile et malin? Moi, je crois que oui.
En tout cas, on peut jouer le rôle.
C'était un grand manipulateur, c'est évident. Et je fais une petite parenthèse. En 1955, quand son prédécesseur est mort, très brutalement, ils se sont trouvés au comité central sans dauphin, sans succession. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il y a eu une lutte très rapide, intestine. Et deux ou trois personnages très importants ont dit, tiens, si on prenait celui-là, pourquoi? Parce qu'il est jeune, parce qu'il est bête, et on va le manipuler. Et le résultat, c'est qu'il les a manipulés lui-même tous. Il s'est emparé de tous les pouvoirs. La liste de ses fonctions est absolument abracadabante. Donc, il est devenu... ce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait devenir. Il est devenu très vite un dictateur. Et pour revenir à ce que vous disiez, lui, il a fait des études. Il n'avait pas fini son école en Roumanie, bien entendu, mais il a fait des études post-lycéales en Union soviétique à l'école ou faculté, je ne sais pas, qui s'appelle Frunze, qui est une école militaire. Personne ne sait s'il est sorti gradé de là, mais il est rentré en Roumanie, il a été fait immédiatement général. C'était une habitude, hein. Il y a eu plusieurs comme ça, qui, tout de suite général. Et en tant que tel, il a été responsable politique de l'armée, ce qui est une fonction très importante, parce que c'est l'idéologue de l'armée, c'est celui qui mène à la pensée politique de l'armée. Et il a dirigé des unités qui luttaient contre les paysans qui s'opposaient à la collectivisation. Et il avait certainement du sang sur les mains, parce qu'on a tué des paysans qui disaient non. Ils ont donné des terres en 46. En 48. Ils ont donné des terres aux paysans. Et tout de suite après, ils ont dit oui, mais alors, on va faire des collectifs, des kolkhozes, comme en Union soviétique. Donc il faut rendre la terre. Évidemment que les pauvres gens disaient, mais non, tu me l'as donnée, je la garde. Non? Et c'est là où ils sont arrivés avec des chars et avec toute la violence requise pour les convaincre.
Les convaincre. Alors, au fur et à mesure que son pouvoir croît, alors, et vous le dites d'ailleurs, c'est assez amusant, donc en 65, Georges Dej meurt, et... comme d'habitude, il y a évidemment des querelles de palais, qui va-t-on élire et le petit monde communiste roumain se met d'accord sur Ceausescu en se disant, voilà, il est suffisamment docile, il est suffisamment idiot, choisissons-le, et erreur fatale, du coup, Ceausescu devient en fait l'artisan de sa propre gloire et d'une ruine accrue de la Roumanie. Vous avez dressé la liste de ses fonctions, c'est assez admirable. Donc il est député et il sera député à vie, mais il n'est pas que député, il est secrétaire général du parti, membre du bureau permanent du comité politique exécutif, chef de la section idéologique du comité central, président de la République, président du Conseil d'État, à Macron en rêve, commandant suprême des forces armées, président du Conseil de défense de la Roumanie, président du Front de la démocratie de l'unité socialiste, président du Conseil suprême du développement économique et social de Roumanie, président du Conseil national des travailleurs et membre de l'Académie roumaine, président d'honneur de l'Académie des sciences sociales et politiques. Et d'ailleurs, vous vous arrêtez en disant, si ça se trouve, il y en a d'autres, je ne les connais pas.
Mais peut-être qu'il y a eu d'autres et qu'on ne se rappelle plus. En effet, c'est assez délirant. Et vous avez cité la présidence de la République, ça n'existait pas avant lui. C'est lui qui a inventé ce poste pour lui. Et alors ça a été assez drôle parce qu'il a voulu qu'en tant que président, le Parlement qu'il a oint lui offre un sceptre. Donc il y a des photos assez ridicules avec lui, un peu mal à l'aise avec ce sceptre qui était un peu grand. Et il y a eu une réaction extrêmement drôle à ça, c'était celle de Salvador Dali. Dali avait une idée fixe. L'empereur romain Trajan, qui a conquis la Dacie, donc le territoire où s'est développée la Roumanie par la suite, était ibérique, donc de l'Espagne, enfin d'Espagne avant l'Espagne. Et Dali disait déjà, ça crée un lien. Puisque ce peuple a été conquis par un Espagnol, il y a un lien très fort. Mais, Dali allait plus loin, l'Espagne est revenue à la monarchie. Donc, la Roumanie, qui est une sorte de sœur de l'Espagne, doit revenir à la monarchie. Et quand il a vu ce truc avec le sceptre, il envoie un télégramme à Ceausescu, pas pour le féliciter pour son élection ou sa nomination, je ne sais pas quoi, il dit « je vous félicite pour l'institution du sceptre présidentiel ». Donc il est resté dans ce... Et il a fait un dessin avec la colonne Trajan qui existe à Rome, au sommet de laquelle il y a une couronne royale. Et ça, il l'a publié partout. En Roumanie, ils ont pris ça... Ils n'ont pas pu éviter, ils ont dû le publier. Mais ils étaient un peu... Ils ne savaient pas très bien comment le prendre. Mais évidemment que Dali se moquait de lui éperdument. Et surtout qu'il était très, très anticommuniste. Oui, président de la République, on ne sait même pas à quoi ça servait. Président du Conseil d'État, on ne sait pas à quoi ça servait. C'est le Parti communiste qui dirigeait tout, absolument tout.
C'est des rôles qu'on ne connaît pas non plus très bien en France. On ne sait pas trop quelles sont les fonctions.
Oui,
c'est assez confus aussi.
Alors, à côté de tous ces titres officiels, Ceausescu va peu à peu développer un culte de la personnalité évidemment sa cour défère à ses vœux d'être appelé de titre ronflant et ça fait tache d'huile et ensuite il est rigoureusement impossible de ne pas parler de Ceausescu sans lui adjoindre immédiatement tout un tas de qualificatifs admirables, père de la nation, meilleur fils du peuple.
Comme c'est beau.
C'est beau. Timonier, étoile polaire, guide suprême, homme étendard, conducator, Danube de la pensée, Carpate du communisme, chaîne des classes laborieuses, tronc souverain, obélisque de feu. Et comme vous le dites, obélisque de feu, ce n'est point à la portée du premier venu. Et alors, de temps en temps, on se dit, bon, Radu Portocolla galège. Pas du tout, vous êtes allé chercher ça dans le livre officiel que chaque année la Roumanie faisait paraître.
Oui, alors... on ne sait pas et on ne saura jamais si c'est lui qui a demandé ou si c'est tout un groupe de l'Eshbot qui, pour se mettre bien avec lui, pour avoir des avantages, parce qu'ils étaient très bien payés, tous ces gens. C'est très curieux parce que lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a défendu tout ce qui était lié à l'ancien chef du parti. Le boulevard qui portait son nom a été débaptisé, une ville qui portait son nom a été débaptisée, etc. Donc on s'est dit, au début on s'est dit, mais c'est bien, au moins celui-là, il n'a pas le culte de la personnalité. Ben, c'est venu assez vite, et le journal à la télévision, qui était très bref et qui ne servait à rien d'autre que raconter ses exploits, on disait qu'il a été visiter une usine, par exemple. On disait le camarade Nicolae Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie, secrétaire général du Parti communiste roumain, a été en visite à l'usine telle. Les ouvriers ont offert au camarade Nicolae Ceausescu, président de la République, etc. Donc ces titres, ces deux du moins, étaient répétés 3-4 fois. Et quand il s'agissait de sa femme, c'était la camarade de la Ceausescu, docteur, académicien, docteur, ingénieur, savant de renommée internationale.
Et ça, c'était dit systématiquement.
Systématiquement, à chaque fois que son nom était prononcé, il fallait dire ça. Et elle, il faut dire que, comme lui d'ailleurs, elle était à la limite de l'illettrisme. Hein. C'était pas savant de l'Orme International, c'était une blague.
Elle était censée être chimiste. Une chimiste absolument remarquable, mais quand il s'agissait de lire des communications scientifiques, oui. Là aussi, vous le dites dans ce livre admirable, Descente dans la Roumanie de Ceausescu. Je reçois un auteur, j'ai complètement oublié de parler de son bouquin. Enfin, heureusement, Virginie a montré l'image. Donc, aux éditions Non Grata, il suffit d'aller sur Book on Demand et on peut se le procurer, si je ne m'abuse. Et elle était tellement nulle que c'était quelqu'un d'autre qui lisait les communications, puisqu'elle butait sur chaque fois qu'il y avait une molécule qu'il fallait mettre dans le discours.
Mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais ça a fini de manière tragique parce que on lui a dit à un moment donné qu'il fallait absolument qu'elle ait un doctorat. Et donc on s'est adressé à un professeur universitaire qui était, lui, une vraie sommité en la matière. Et le doctorat, la soutenance a été annoncée pour, mettons, mercredi 21. Et quand quelques personnes se sont présentées pour assister, on leur a dit, ah ben non, ça s'est passé hier. Donc, à huis clos. Et en plus, le professeur qui a géré l'affaire, très opportunément, a eu une crise cardiaque quelques jours plus tard. Donc, l'affaire a été réglée. Elle est restée docteur. Mais les docteurs honoris causa, toujours de je ne sais pas combien d'universités étrangères qui n'ont pas retiré. Ceausescu est toujours grand croix de la. Grand croix, oui, de
la Légion d'honneur.
Il est toujours docteur honoris causa de l'Université de Nice. Nous, quand on est allé en 88 ou 89 à la Légion d'honneur pour dire écoutez, il y a toutes les raisons pour que vous lui retiriez cette décoration, on nous a répondu, c'était quand même assez stupide. Hein. Ah, vous poussez trop loin le bouchon de l'anticommunisme. Alors ça, c'était la Légion, la chancellerie.
Mais alors, comment le peuple roumain, ma question va paraître peut-être naïve, mais comment le peuple roumain pouvait à ce point être subjugué par alors le régime d'une part, les idées d'autre part, mais même la personnalité?
Alors, il y a deux réponses. Il y avait une partie que ça ne gênait pas. C'était des gens qui étaient... on les a fait venir de la campagne, où ils vivaient dans des conditions plutôt difficiles. On les avait installés dans des quartiers nouveaux, dans des immeubles. Tout d'un coup, ils avaient une salle de bain, une cuisine, etc. Ils n'étaient pas tout à fait contre. Ils auraient préféré certainement que leur frigidaire soit un peu plus rempli, mais bon.
Ils avaient un frigidaire.
Ils avaient un frigidaire, oui. Ça... c'est probablement la même catégorie sociale qui aujourd'hui le regrette, ou leurs enfants, hein, d'accord. Mais il y avait les autres, c'était la peur, tout simplement. Tout était surveillé. On écoutait le téléphone, on ouvrait toutes les lettres, il y avait des délateurs partout, partout. Moi j'ai été dénoncé par quelqu'un qui était une amie. Bonne amie, par exemple. Et je l'ai su trop tard, bien entendu. Et il y a des gens qui se faisaient dénoncer. J'ai connu, il y a quelques années, un Roumain qui avait une histoire absolument tragique. Il écrivait des romans politiques. Bon, évidemment, il ne pouvait pas publier, mais il l'écrivait, il mettait dans un tiroir. Et très vite, quand il finissait un roman, il avait une visite de la police politique qui allait directement au tiroir. Il prenait le
manuscrit.
Et lui avait après des punitions et je ne sais pas quoi. Et quand, après la chute du régime communiste, on a pu voir ces dossiers de sécurité, de police politique, ne serait-ce que partiellement, il a découvert que c'est sa femme qui le dénonçait. Et sa femme le dénonçait, pourquoi? Parce qu'elle était la maîtresse d'un officier de la police politique. Donc il était cocufié et dénoncé. Mais j'ai eu l'indécence de lui demander, mais qu'est-ce que vous avez senti à ce moment-là? C'est monstrueux. Et il m'a dit, bah, écoutez, franchement, j'ai remercié Dieu de l'avoir prise avant que je la tue.
Mais oui,
on peut penser à ça.
Oui.
Quand même, ce peuple qui vit dans le paradis du chêne des Carpates et dans l'obélisque de feu, vit avec une température, par exemple, qui ne dépasse pas 8 degrés dans les appartements en plein hiver. Les plus inventifs ont imaginé un moyen de gagner 2 ou 3 degrés. Des cierges achetés ou volés dans les églises sont collés sur un plateau et chauffent une plaque de métal suspendue au-dessus. La pression du gaz dans les cuisines est tellement faible qu'il faut une demi-heure pour faire bouillir un litre d'eau. Quant à l'eau chaude dans les salles de bain, elle est distribuée moins d'une heure par jour et souvent au moment où les gens sont à leur travail et ne peuvent en profiter. L'électricité est interrompue pendant plusieurs heures par jour. Ainsi, chaque soir, les ampoules de 25 ou 40 watts, les seules qu'il est possible d'acheter, s'éteignent, laissant la population dans une obscurité qui s'ajoute au froid et à la faim. C'est quand même une condition absolument misérable.
C'est monstrueux. Ça, c'était... Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, je suis parti en 1977. Ça a commencé dans les années 80. Moi, je n'ai pas eu froid, par exemple. Mais les magasins vides, ça, j'ai très bien connu. C'était monstrueux, par exemple, quand on avait un bébé. Nous, on ne peut pas garder un bébé dans une chambre où il y a 8 degrés, où on n'a pas du lait à lui donner à boire, où, etc., etc. C'était terrifiant. Et c'est aussi un moyen de garder les gens sous contrôle. Parce que quand on n'a pas d'autre pensée que le déjeuner ou le dîner du lendemain, que de « Ah, est-ce qu'on peut se laver aujourd'hui ?» Oui, on ne va pas penser à faire la révolution. C'est impossible. On doit penser juste à la survie. Mmh. Et c'était ça. Vous imaginez les hôpitaux, par exemple, où quand la lumière, le courant était coupé, Mais ils n'avaient pas toujours des groupes électrogènes. Il y avait des morts, il y avait des accidents. Ça, ça ne comptait pas. Tout ça pourquoi ? Parce que Ceausescu avait fait des dettes extraordinaires pour industrialiser le pays. Là, c'était l'obsession, évidemment. Ça, c'est un truc très communiste. Hein. C'est l'industrie. À un moment donné, quand il a vu qu'il n'avait plus la sympathie de l'Occident, il s'est dit, je vais leur tourner le dos, mais je dépends d'eux, parce que je leur dois de l'argent. Donc, pour pouvoir leur tourner le dos, il faut que je rembourse, et vite. Et donc, c'est probablement la seule fois dans l'histoire récente où un pays a payé toutes ses dettes, rubis sur ongles, bien avant le terme.
Mais évidemment, au prix de la famine complète.
Au prix de ça. Ouais,
voilà. Parce que tout ce qui était produit par la Roumanie, et qui d'ailleurs était de qualité médiocre, était immédiatement vendu, exporté, et sans que les gens puissent en profiter.
Oui, c'est ça.
Vous donnez la recette du... c'est absolument terrible, c'est ce qui inaugure le chapitre consacré aux femmes roumaines. Et vous donnez une recette aimable, qui aujourd'hui d'ailleurs ferait le bonheur des végans. Les graines de soja sont laissées dans l'eau de 12 à 24 heures, bouillies pendant une demi-heure dans une quantité d'eau égale à 3 fois leur poids. Rappelons qu'il faut une demi-heure pour faire bouillir l'eau. Et enfin, passées à travers un tissu très fin. L'on peut ajouter, selon le goût du sel, du succédané de café à base d'orge ou bien du miel. Et ça, c'est une recette pour la préparation d'un ersatz de lait. Et on leur expliquait aussi comment préparer des fostecs à partir de graines de soja, en les prévenant d'ailleurs que le soja n'était pas toujours disponible. Et donc ce rêve de végétarien était en fait le quotidien des Roumains.
Mais c'est d'ailleurs souvent la convergence des luttes, en France en tout cas. Souvent
oui. Parce qu'il exportait le peu de viande qu'il y avait, et le peu de viande. Vous savez, dans les années 80, moi, quand je vais maintenant en Normandie par exemple, et je vois les vaches dans le champ d'à côté, qui ont des pies énormes. Une vache en Roumanie pouvait, à un moment donné, dans les années 80, ne donner qu'un demi-litre de lait par jour. Elles étaient cachectiques. Elles n'avaient pas de viande. Donc, l'exportation de viande était assez problématique. Et quant à la mettre sur le marché interne... Mais on se débrouillait parce qu'il y avait toujours le marché parallèle, il y avait toujours le marché noir. J'avais un ami qui, à un moment donné, était architecte, il a fait un stage, je ne sais pas pourquoi, à l'abattoir de Bucarest. Et il m'a dit, écoute, il y a une histoire extraordinaire qui se passe tous les jours. Les camions sortent chargés de viande et ils sont pesés sur une plateforme à la porte de l'abattoir. Ça pèse un camion entier avec sa charge. Donc, il y avait un battement de 40 kilos. Chaque boucher sortait tous les jours 40 kilos de viande. Mmh. Ce qui faisait qu'il arrivait à un moment donné à faire fortune, évidemment. Mais ça, c'était... Il fallait être... l'ami du boucher ou l'ami de la cousine ou je ne sais pas.
Ou l'ami du type de la sécurité
voilà, en charge. Eux, ils en profitaient beaucoup. Parce que chaque opération comme ça qui se passait au noir était couverte par la police économique et la sécurité et qui touchait les pots de vin pour fermer les yeux.
Alors, vous nous dites d'ailleurs que le résultat de cette politique de remboursement est une pénurie généralisée qui n'émeut évidemment personne dans le pays. La production agroalimentaire, quand elle est de qualité acceptable, part à l'étranger en échange de dollars. Les Roumains, se contentent de ce qui est invendable, c'est-à-dire de ce qui est très mauvais ou presque périmé. Dans les boucheries, par exemple, les os, les cartilages, les têtes et les pattes de poule sont les seuls produits qui peuvent se trouver. Mmh. Les épiceries sont vides, à l'exception de boîtes de conserve au contenu peu ragoûtant. Les fruits et les légumes ne peuvent être trouvés que s'ils ont été refusés par des acheteurs étrangers pour leur mauvaise qualité. Improviser des repas est une torture, les signes de malnutrition ont fait leur apparition depuis des années, et même ceux du rachitisme chez les enfants. Malgré cette situation désastreuse, Ceausescu a dû considérer que les Roumains mangeaient trop et trop bien. Les tickets de rationnement ont donc fait leur apparition, doublés de très cyniques programmes officiels d'alimentation rationnelle, élaborés par des médecins asservis au régime.
Oui, il y a eu quelques professeurs de nutritionnisme, je ne sais pas comment on appelle ça, qui ont été assez sales pour se mêler de cette histoire et qui ont pondu un programme de nutrition saine. Même celui-là, il ne pouvait pas être suivi. Mais c'était « vous mangez trop, vous êtes trop gros ». Ah, mais on regardait les enfants qui avaient des ventres enflés, mais ça, c'est le rachitisme, c'est pas parce qu'ils mangent trop.
C'est la malnutrition.
Voilà. Ou alors, il y avait des hommes qui étaient gros parce qu'ils buvaient, parce que l'alcoolisme était quand même très, très développé, ce qui est normal dans des conditions comme ça. Enfin, presque. Bon.
Cette Roumanie que vous nous racontez, c'est vraiment la Roumanie des années 80, c'est-à-dire cette Roumanie que vous aviez quittée, dans laquelle vous aviez encore des contacts, et qui était une Roumanie qui, jusque dans les années 84-85, était encore considérée comme une espèce de petit miracle socialiste. Et vous parlez de la manière dont on vous dit qu'il ne faut pas pousser le bouchon de l'anticommunisme trop loin, avec notamment, vous décrivez les visites à Paris de Ceausescu. Les opposants roumains à sa politique y étaient assez nombreux et actifs. Bucarest, qui craignait des manifestations hostiles, a demandé à la partie française de les éloigner. Lors de la première visite, donc, tous les opposants connus sont envoyés dans un hôtel en Corse, ce qui est assez gentil.
Au frais de la princesse.
Voilà. Et pour la deuxième visite, une économie a été réalisée. Les Roumains dangereux, qui figuraient sur la liste communiquée par les autorités roumaines, ont dû se présenter au commissariat de police de leur quartier et signer tous les jours pendant la visite de Ceausescu. Donc la France a accepté, en fait,
elle s'est pliée complètement.
De respecter la manière dont un dictateur expliquait que tel ou tel était indésirable.
Bah, déjà,
la France, pays de la liberté,
déjà,
bien sûr. La France de Mitterrand.
Non, ça c'est la France de Giscard.
France de Giscard, pardon.
Mitterrand n'a pas eu de relation avec lui, c'est assez intéressant. Mais la France de Giscard, déjà, elle s'est pliée parce que il y a eu une entorse au protocole de l'État. Un chef d'État étranger ne peut venir qu'une seule fois pendant un mandat du président français en visite d'État, avec drapeau sur les Champs-Élysées, etc. Et Ceausescu est venu deux fois parce qu'il n'a pas voulu venir en visite simple, visite privée ou je ne sais pas quoi. Donc deux fois, il y a eu la visite d'État. Et c'est ces deux fois-là que... Et la deuxième fois, j'avais une amie qui était d'ailleurs l'interprète de Giscard pour le roumain. Enfin, elle était l'interprète de 5 présidents français, de Gaulle jusqu'à Mitterrand, Chirac pour le roumain. Et elle devait aller signer. Et elle habitait dans le 15e. Et la deuxième ou la troisième fois, elle a dit au commissaire de police, écoutez, c'est quand même assez scandaleux. C'est, pour cette espèce de voyou, vous nous faites venir... Et le policier qui lui a dit « Madame, vous avez raison, ne venez plus !» Point. Mais l'idée était ça, il fallait les contrôler. Et d'ailleurs, même plus tard, moi j'ai travaillé de 86 à 88 à Radio France Internationale, le service roumain qui émettait vers la Roumanie, des émissions tout à fait édulcorées et médiocres, mais... Au moins une fois par semaine, le Quai d'Orsay téléphonait à la rédactrice en chef avec la même phrase « N'indisposez pas les autorités roumaines ».
Sous-entendu, ne nous indisposez plus, nous les autorités françaises.
Oui, ne critiquez pas trop. Bon, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de lait, mais pas que Ceausescu est un idiot, par exemple, ou des choses comme ça. Jusqu'à très tard, il y a eu ça, et c'est assez scandaleux.
Alors, c'est pour ça que vous avez... Pardon.
Non, je vous en prie, allez-y.
C'est pour ça que vous avez eu envie d'écrire ce livre, pour que, par rapport à cette désinformation constante du régime de Ceausescu, de ce régime communiste, les Français puissent savoir ce qui se passait véritablement au pays de l'obélisque de feu.
En 88, je suis parti de Radio France Internationale, je suis allé à Radio Voice of America, qui était celle que Trump veut fermer, ou va fermer, j'en sais rien. C'était à l'époque la plus grande radio du monde. qui émettait en 44 langues. Il y avait, je crois, 2000 heures d'émission par semaine. C'était énorme, énorme. Et donc, il fallait apprendre des choses. Il fallait savoir comment ça se passait en Roumanie. Les journalistes étrangers ne pouvaient plus entrer en Roumanie. J'écrivais en même temps dans Le Point. Et une fois par semaine, je co-dirigeais une émission en français, mais sur la Roumanie, dans une minuscule radio à Paris, qui était Radio Solidarnosc. C'était un truc assez...
Confidentiel.
Assez confidentiel. Oui, ça, on l'écoutait en région parisienne. Et donc, il fallait être informé. Et c'était très difficile... On arrivait, on était quelques-uns, évidemment, on nous changeait les informations. Et puis à un moment donné, je me suis dit, toutes ces choses, il faudrait quand même les mettre ensemble. Et les mettre ensemble, c'est le livre est le meilleur moyen de mettre ensemble des choses. Donc j'ai écrit ce livre à l'automne 89. Je l'ai fini le 10 décembre. Le lendemain, j'ai déjeuné avec un ami qui était un journaliste très connu et qui dirigeait une collection... chez Albin Michel.
Jean Montaldo, citons-le, voilà, qui était devenu très célèbre avec ses livres sur les scandales financiers et notamment la collusion des socialistes avec la finance.
Et Jean Montaldo a regardé un peu le manuscrit, il m'a dit, moi je le prends, donc je publie en janvier. Et 10 jours plus tard, Ceausescu a chuté. Donc, ça n'avait plus de sens. Et alors, le manuscrit est resté dans un dossier pendant 37 ans. Et au bout de 37 ans, je me suis dit, pourquoi ne pas le publier finalement ?
C'est remarquable de le publier aujourd'hui. Ah oui.
Mais cette descente dans la Roumanie de Ceausescu, on est en 2026, évidemment, on est farci de récits horribles sur la Corée du Nord. D'ailleurs, on n'en est pas si farci que ça. Et le jour où Kim passera l'arme à gauche avec il sera remplacé avec un peu de chance, on saura la vérité. Plonger dans cette Roumanie communiste, qui est vraiment une espèce de royaume de fées à l'envers où les gens meurent de faim, les villages sont rasés, la ville est saccagée, on oblige les travailleurs de temps en temps à rester des heures durant sur les places en attendant que les voitures des officiels invités par le régime passent et donc ils sont censés agiter les mains et montrer à quel point ils sont heureux et fiers que quelqu'un vienne visiter le chêne des Carpates. Un truc dans ce goût-là. Quelque chose comme ça. Et le... c'est une machine à remonter le temps, votre livre. Là, on est fasciné. Et surtout, il y a quelque chose que m'a signalé un ami. La manière dont Ceausescu, peu à peu, envahit en fait les esprits de tout le monde, reforme tout le pays, puisque il décide quand je parle des villages, il y a un plan de Ceausescu pour faire en sorte que la Roumanie soit rasée réellement, c'est-à-dire que non seulement on est en train de bousiller Bucarest, on y reviendra, mais aussi par exemple en 1988, on lance la systématisation rurale. Et donc, ça veut dire que d'ici l'an 2000, il faudra ramener le nombre de communes de 2700 à 2000, réduire de façon radicale le nombre de villages. Sur les 13 000 existants, seuls 5 à 6 000 devront rester. Et ces communes urbanisées et agrandies seront groupées autour de 558 villes agro-industrielles. Et donc, ça veut dire qu'on les rase. C'est-à-dire des centaines de villages ont été, par la volonté de Ceausescu,
ils n'ont pas été rasés complètement parce qu'il n'a pas eu le temps, mais
certains ont déjà.
Ils ont commencé et ce qu'ils voulaient faire, c'était remplacer. Vous savez, les marxistes n'aiment pas les paysans parce que le paysan est conservateur, parce que le paysan a de la terre, donc il possède.
Il est propriétaire.
On les aime pas. Donc la première chose qu'on a commencé déjà en 1917 en Union soviétique, c'est de les transformer en ouvriers agricoles, ou de les amener à la ville et de les transformer en ouvriers. Bon. L'idée était de transformer les villages en mini-villes. Donc, raser leurs maisons avec minuscule lopin de terre qui leur restait, mais qui était vraiment minuscule, et les parquaient dans des immeubles. Donc, immeubles de 4 étages, c'était, ça c'était le plan, et il fallait des immeubles de 4 étages, mais alors, il ne fallait pas que ça coûte trop cher, il ne fallait pas s'embêter, donc il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette, ça c'était commun. Vous habitez au 4e étage, il fallait descendre la nuit si vous avez besoin au rez-de-chaussée, parce que c'était là. Donc, c'était ça, c'était la première chose, c'était une antipathie du paysan, alors que lui-même venait du monde paysan. Mais c'était marxiste, il était très doctrinaire en fait. Et j'anticipe, ça a fini très mal parce que. Enfin, ça a fini très mal. Ça a fini de manière assez énervante. Les communistes occidentaux qui, pendant très longtemps, ont été un peu étonnés par cette évolution de Ceausescu, alors qu'en même temps, ils profitaient. Hein, le Parti communiste français, tous les chefs du Parti communiste passaient leurs vacances en Roumanie. Marché, Krasuki, tout le monde allait en Roumanie. Passer des vacances, offrir de la princesse au bord de la mer ou à la montagne, et c'était très bien. Mais à un moment donné, ils se sont dit, ça va un peu trop loin. Donc, mais ce n'est pas un communiste, il est fasciste. Donc ça a été le verdict final, et on s'en lave les mains. Il n'est pas des nôtres, c'est un fasciste.
Bah, ouais. Une fois que ces crimes étaient avérés, une fois que l'échec était patent, admirable ressource intellectuelle, on a l'impression de... vous savez, que comme ces bourgeois blancs qui expliquent que, bien sûr, les blancs sont racistes, mais pas eux, uniquement les prolétaires. Et donc là, le communiste explique, puisque Ceausescu est une vraie crotte, et bien, finalement, en fait, il est fasciste, et donc, bien sûr, nous n'avons plus rien à voir avec lui.
Mais ça, excusez-moi, ça, c'était Gorbatchev a appliqué cette technique, hein, parce qu'ici, on s'est... escrimé pendant quelques années à dire, mais non, Gorbatchev va laisser derrière le communisme, c'est plus... Alors que lui-même disait, mais je suis léniniste. Jusqu'à la fin, je serai léniniste. Ben, quand on est léniniste, on n'est pas libéral. Voilà. Mais Gorbatchev a eu une idée qui était très simple. Il a substitué le mot stalinisme au mot communisme. Donc, en Union soviétique, de son temps, et immédiatement en Occident, on n'a pas parlé des crimes du communisme, on a parlé des crimes du stalinisme.
Ce qui permet de réduire ça grandement...
Ça réduit la chose, oui, voilà.
Et ça permet
et
surtout
ça réécrit l'histoire, au passage.
Voilà. Et de faire en sorte que Lénine apparaisse comme un être bourré de vertu.
Le petit père du peuple.
C'était une, à mon avis, c'était une technique extraordinaire qui a remis les partis communistes un peu en selle, et puis voilà.
C'est des parallèles. Enfin, vous voyez des parallèles avec la situation politique qui émerge depuis quelque temps en France sur justement cette utilisation à tout bout de champ du fascisme dès qu'on est en désaccord avec la bien-pensance, le grand dialogue, la pensée unique qu'il
mais
faut avoir.
Entendu.
Est-ce que c'est des parallèles que
mais
vous pouvez
bien
voir
entendu.
Avec des conditions de vie qui sont évidemment différentes avec ce que vous avez connu en Roumanie?
Je vais commencer avec une chose qui me choque en ce moment même. Je travaille sur un livre qui traite d'un énorme procès politique qui a eu lieu en 1947 en Roumanie. Peu importe. Et qui a fait que tous les jours, pendant 6 mois, le journal du Parti communiste, qui s'appelait L'Étincelle, publiait des articles très virulents. Eh bien, je trouve qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre ces articles et ce que j'entends quand certains membres éminents du LFI s'expriment. Il y a aucune, c'est le même langage, c'est la même violence. Et finalement, c'est la même stupidité. Hein. Tout est fasciste, tout est contre le peuple est martyrisé.
Matraqué en permanence.
Voilà, c'est une catastrophe, l'oppression. Ça m'a sidéré quand tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est des choses que j'entends. Voilà. Et c'est ça, j'entends ça, je suis dans un parti politique, et pas seulement, hein, pas seulement LFI. Ensuite, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de censure en France. Non, il y en a. Il y en a. Ben, là-bas, il y en avait une. Et je l'ai connue bien. Vous parlez de pensée unique. Évidemment, on ne pense que dans une seule direction. Et si on fait comme ça, ça tombe très mal et on peut le payer cher. Donc, je ne peux pas dire qu'on va vers la même chose, mais moi, je retrouve des choses que je pensais laisser derrière moi pour toujours. Et non, elles ne le sont pas.
Et je pense qu'il y a aussi une grande méconnaissance et une volonté aussi, je pense, de ne pas enseigner, de ne pas transmettre. Moi, par exemple, on ne m'a pas du tout enseigné à l'école. Quand on parle du XXe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle, ça s'arrête à Berlin-Est. Au-delà, il ne se passe rien. Enfin, en cours d'histoire, je n'ai jamais appris au-delà de la chute du mur. Et voilà, on parle de Berlin-Est, Berlin-Ouest, ce qui est très important aussi. Évidemment, je ne mets pas du tout ça en cause. Mais moi, je n'ai appris que tardivement, et parce que si, on en parlait quand même un peu à la maison, mais de tout le bloc communiste, de toute cette pensée, de tous les pays d'Europe de l'Est, qui ne sont aujourd'hui absolument pas enseignés à l'école.
Non, mais on
je
veut
pense
pas.
Qu'il y a aussi une volonté, voilà, de nier cette réalité.
On ne veut pas, et je me souviens, ma fille est née à l'école, dans le manuel d'histoire, il y avait une leçon sur le communisme. Bah, il y avait des photos qui étaient énormes et des textes qui étaient très petits. Et je crois que si on mettait bout à bout les textes, ça ne faisait pas une page.
J'ai dû avoir les mêmes livres d'histoire que votre fille, sans doute.
Mais on ne peut pas. On peut pas. Qu'est-ce que vous voulez? Si on est resté sur ça. Lénine était un homme extraordinaire. Et tout part de là. Non, Marx était un homme extraordinaire. Mais Lénine, il y a un général soviétique qui était communiste, qui était marxiste, qui était léniniste, qui petit à petit a ouvert les yeux. Il s'appelle Volkogonov. Il a écrit un livre énorme, je ne sais pas, 600 pages, sur Lénine, qui a été traduit. Mais on découvre un personnage monstrueux et un personnage misérable en plus. Petit, peureux, enfin un type ignoble qui écrivait quand il a été exilé, mais enfin l'exil intérieur, hein, il était envoyé dans la propriété de campagne de sa famille. Il écrivait des lettres minables, il se disait noble pour avoir quand même un peu d'audience. Mais en même temps, le même Volkogonov a écrit un livre tout aussi grand et important sur Trotsky. Personne n'a voulu le traduire en France. Vous voyez, parce que lui, il reste quand même sur un piédestal. Et je me souviens, il y a 25 ans ou quelque chose comme ça, Stéphane Courtois avait fait une émission sur le parallèle entre
la Révolution française
et... Non, entre communisme et nazisme.
Ah, ce qu'il avait fait aussi sur la Révolution française.
Ça a fait scandale et on l'a laissé la passer à 2h de la nuit, sinon, parce que c'est pas possible de faire ça. Et il y avait à un moment donné une jeune femme, en marge d'une manifestation trotskiste, qui disait « La révolution, c'est la seule chose qu'on puisse espérer, c'est la seule chose qu'on doit faire, et s'il faut faire des morts, on fera des morts. »
Mais c'est un discours qu'on entend.
Aller dire ça dans un autre type de manifestation, il se passe quoi après? Il y a tout le parti qui entre en prison, n'est-ce pas?
Oui, mais là, c'est le Parti communiste, c'est différent. Et vous avez raison de dresser ce parallèle. Page 59, vous parlez du code pénal. Et il y a un article, l'article 166, le code pénal roumain, qui dit « La propagande ou toute autre forme d'action menée dans le but de changer l'ordre socialiste ou qui peut entraîner un danger pour la sécurité de l'État sera punie de 5 à 15 ans d'emprisonnement et de l'interdiction d'exercer certains droits. » Je n'ai pas pu m'empêcher quand je lis la propagande ou toute autre forme d'action menée dans le but de changer l'ordre socialiste, J'ai l'impression d'entendre l'Union européenne nous expliquer que, avec le bouclier démocratique qui est en train d'être mis en place, et ce terme bouclier démocratique, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'Union européenne qui l'emploie, que le bouclier démocratique est là pour empêcher les gens de critiquer l'Union européenne, qui est évidemment la forme ultime d'intelligence politique qu'on peut avoir. Jean-Noël Barrot a publié d'ailleurs récemment un tweet absolument halluciné et aberrant où il nous dit ça. Et j'ai été, surpris au minimum, et je vais essayer de le retrouver pendant que vous nous dites si, à votre avis, la propagande communiste, voilà. Des maires du Rassemblement National ont décidé de retirer le drapeau européen du fronton de leur mairie. C'est une trahison de ce que nous sommes. L'Union européenne, c'est la France qui l'a voulu. C'est nous, pour garantir la paix, pour préserver notre indépendance. Et c'est pour nous le moyen d'affirmer une autre vision du monde, la nôtre. Il n'y a pas de dissolution de l'identité nationale dans l'identité européenne. Pas plus que nos identités locales ne s'effacent derrière notre identité nationale. Nos appartenances sont multiples, elles se renforcent, se complètent et s'enrichissent. Ce drapeau, donc le drapeau européen, est celui d'un espoir possible. C'est le drapeau de la liberté, de la justice et de la démocratie, comme une affirmation de notre volonté farouche de maîtriser notre destin.
Voilà. On sent votre agacement, Richard.
Le RN a blasphémé, et donc Barrot est en train de leur filer une volée de bois vert. C'est le bouclier démocratique avant l'heure, et donc on sent que...
C'est lui qui a demandé qu'il y ait des sanctions contre Jacques Beau et Xavier.
Oui, on a oublié son nom, mais c'est lui. Ouais. Tout à fait. Et ça a marché.
C'est démocratique, ça. C'est démocratique.
Deux auditeurs de Radio Courtoisie nous posent des questions ou font entendre leur témoignage. Quel bonheur d'entendre parler de ce paradis terrestre pour ouvriers. Pouvez-vous nous confirmer que Ceausescu, supporter du club de Bucarest, faisait gagner le championnat du pays à son club par tricherie et même sur tapis vert?
C'est possible. Je sais qu'il y avait des tricheries dans les Xavier Moreau.
Voilà.
C'est qu'il m'excuse si jamais il écoute. Je sais qu'il y avait des tricheries dans les championnats de gymnastique, dans les Jeux olympiques, etc. Il y avait déjà une tricherie médicale parce qu'ils étaient tous traités aux hormones et... On sait par exemple que les nageuses d'Allemagne de l'Est étaient tellement empoisonnées d'hormones que ça les a détruits. Peut-être qu'ils trichaient aussi pour les footballs, j'en sais rien. Ça.
Mais oui, mais pourquoi pas. En 1967, dans le cadre d'un mouvement français communiste, LVJ, j'encadrais des jeunes pour visiter les pays communistes. C'était des villages Potemkin, les cochons noirs de Roumanie étaient peints en rose pour nous montrer combien ils étaient en bonne santé. C'est fascinant. Il y a ce mensonge incroyable, il y a cette réalité stupéfiante, il y a cette propagande dans laquelle on est. Et vous en avez un peu parlé.
Excusez-moi, ça me rappelle quelque chose. Les magasins d'alimentation étaient vides, où il y avait 3-4 choses. Voilà. Et tout d'un coup, un magasin dans un quartier se remplissait. Pourquoi ? Parce que Ceausescu venait faire une visite. Donc il arrivait avec son convoi de voitures, de ministres, de je ne sais pas quoi. Il visitait le magasin, il disait, mais pourquoi ils se plaignent ?
Il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut. Ils partaient et c'était vidé. On ne laissait même pas les gens venir acheter ce qu'ils avaient. On déplaçait la marchandise dans un autre magasin.
Et c'est absolument incroyable. On a l'impression vraiment de ce dictateur qui erre dans un simulacre permanent et qui d'ailleurs tient absolument à faire en sorte que Bucarest, à la faveur d'un tremblement de terre, va mal. Et donc, il décide de tout détruire. Le premier des bâtisseurs, l'architecte le plus éclairé, etc. Donc, tous ces titres ronflants décide de changer la ville. Et donc l'acropole du socialisme roumain commence à être bâti et... le drame, c'est que devant leur temple grandeur nature, les deux vieillards, donc autrement dit Ceausescu et sa femme, se chamaillent ou tout simplement changent d'idée l'espace d'une nuit, tandis que le chantier gronde et s'élève. Combien de fois l'a-t-on vu, lui, Ceausescu, gesticulant depuis sa limousine blindée, condamnant tel pignon, exigeant plus de colonnades en façade, redessinant du doigt le linteau d'encadrement des fenêtres, ceci plus haut, ceci plus bas. Le doigt qui dit tout, ironise les ouvriers. Et pendant qu'on casse le béton fraîchement moulé, des dizaines d'architectes travaillant nuit et jour tentent d'interpréter au mieux les désirs obscurs du guide éclairé. Et donc, le gars est vraiment emporté par l'idée de construire une ville idéale dans un pays idéal, avec une industrie idéale, pendant que les vaches meurent de faim, les enfants aussi.
Oui, et puis l'industrie qui était absolument minable.
Plus bas,
oui. Là, maintenant, il y a des... nostalgiques qui disent « Oh, on avait une industrie extraordinaire ». Pas du tout. On avait une industrie qui était très mauvaise. Ils arrivaient difficilement à exporter ce qu'ils produisaient. Et par exemple, les voitures, il y avait des délégations d'Afrique qui venaient acheter. On faisait la Renault 12, la Dacia. C'était le début de la Dacia. Et ils faisaient une chose qui est très simple. Ils demandaient qu'il y ait 25 voitures mises sur un plateau devant eux. Ils disaient « Enlevez la porte-volant de numéro 1, changez avec numéro 15, 12 avec 18. » Et ça ne marchait pas, parce qu'elles étaient ajustées à coup de marteau au moment de l'assemblage. Et même ça, ça ne s'exportait pas, ça s'exportait très mal. Les États-Unis ont acheté à un moment donné des tracteurs roumains pour les transformer en ferraille, tout simplement. Donc c'était une aberration, le rêve d'industrie parfaite, d'agriculture parfaite, etc. Non, c'était complètement, c'était délirant. Il n'y avait pas ça. Et pour Bucarest, ce que vous avez lu là, c'était une citation d'un architecte. Il pouvait pas, il comprenait pas les plans. Donc les plans, ça lui servait à rien. Donc il fallait, à chaque fois qu'il faisait une modification, il fallait faire une maquette. Et une maquette grande pour qu'il puisse prendre tel objet ici, ou tel immeuble ici, et le mettre là. Et donc, il se cassait la tête pendant des jours et des jours de faire des maquettes qui remplissaient une pièce entière.
Puisque c'était des maquettes d'une ville complète, on est d'accord?
Oui, oui, énorme, oui, oui. Et ils ont fait cette monstruosité de bâtiment. Ça s'appelait à l'époque la maison du peuple. Qui avait un but très précis. Il fallait centraliser là absolument tous les éléments du pouvoir. Le comité central, le conseil d'État, le premier ministre, les ministères, etc. Tout devait être là. Donc c'était vraiment une centralisation totale. Et en plus, devant, on avait fait un boulevard énorme qui s'appelait boulevard de la victoire du socialisme. Un bon nom, hein. On a envie d'habiter là. Où ils voulaient mettre toute la nomenclature. Et ceux qui étaient dans les beaux quartiers d'autrefois, ils avaient des villas et tout ça, mais non, ça devait finir. Il fallait qu'ils soient là, dans des appartements, pour qu'ils soient beaucoup plus bas que lui.
Oui. Quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de romans, des uchronies, par exemple les Hunger Games, si jamais vous... Et moi, naïvement, je pensais qu'on avait des auteurs qui avaient inventé tous ces univers et créé des choses sorties de leur imaginaire absolument fabuleuses, mais en fait, vous décrivez les romans que je lisais adolescente, j'ai l'impression.
Il nous reste à peine 2 minutes. Je voudrais donner 2 autres citations. En Roumanie, tout ce qui n'est pas interdit est soit obligatoire, soit impossible. Et c'est un pays où c'est une récompense qu'il n'y ait pas de châtiment. Et vraiment, c'est ça la Roumanie que vous avez connue. Oui. Et même, elle est devenue pire encore, si j'ai bien saisi, après votre départ.
Après, c'est devenu pire.
Alors, aujourd'hui, vous publiez « Descendre dans la Roumanie » de Ceausescu, donc aux éditions Non Grata. C'est un devoir de mémoire, c'est pour que les gens n'oublient pas, c'est parce qu'en fait, le mensonge est toujours possible et que les présidents fous sont toujours capables de mener leur peuple à la ruine.
Le mensonge est toujours possible, le mensonge est toujours là. Il y a beaucoup, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui regrettent ces temps-là. Il y a beaucoup de jeunes qui ne l'ont pas connu et qui ont été, j'imagine, manipulés, c'est un grand mot, mais ça, par un grand-père, qui disaient « Oh, c'était bien, c'était extraordinaire mais donc, oui, ça pourrait essayer d'ouvrir des yeux et ça pourrait essayer aussi d'ouvrir des yeux ici à des gens qui se disent « Non, c'était un temps extraordinaire. »
Les grandes heures.
Oui, oui. On appelait ça, en Roumanie, on appelait ça l'époque d'or. Et j'ai vu sur Facebook, il y a un compte qui s'appelle Roumain, qui s'appelle l'époque d'or, où je l'ai découvert hier. Mais j'ai été sidéré. J'ai regardé pendant une demi-heure, j'ai tourné. C'est incroyable. C'est fait par des gens qui se disent « Mais c'était merveilleux. C'était merveilleux. » Et on a envie de leur dire « Bon, ben, très bien, mais refaites un régime communiste, refaites une dictature, refaites une police politique, et vous verrez ensuite si c'est tellement merveilleux. »
Et affamer au passage quelques personnes. Merci beaucoup Radu Stănescu d'être venu nous présenter « Descendre dans la Roumanie » de Ceausescu. Et je n'ose pas vous dire à bientôt, mais si. Enfin voilà, si un autre livre voilà, surgit du passé pour nous dire évidemment ce qui a été vécu. Mais, merci mille fois.
Merci. Merci beaucoup.